Xavier Delaporte, votre billet numérique, aujourd'hui, vous voulez le consacrer aux rencontres photographiques d'Arles qui présentent une pièce étonnante.
Oui, pour la voir, cette pièce, il faut aller tout au bout des ateliers, cette succession d'anciens bâtiments industriels qui ont été transformés en salle d'exposition. Et là, tout au bout, on arrive à une installation qui est intitulée le Musée Carton.
Musée Carton, chef-d'œuvre de l'art helvétique.
C'est à peu près le genre de son qu'on peut entendre en entrant dans une sorte de petit labyrinthe en carton de quelques dizaines de mètres carrés qui contient un foutoir d'affiches, de sculptures brinque-ballantes, de peintures dégoulinantes et d'écrans qui diffusent des vidéos étranges. Alors c'est l'œuvre d'un jeune artiste suisse du nom de Augustin Rebetez qui a décidé de refaire dans son musée carton une histoire de l'art à sa manière. Et il faut quelques instants pour comprendre que tout ce qu'on voit fait référence d'une manière ou d'une autre à des artistes, à des pièces connues de l'art helvétique, mais pas seulement, parce qu'on peut, par exemple, y imprimer son Picasso, ce qui est assez utile. Lors de la visite que j'y ai faite en juillet, je me régalais de tout ça quand soudain, sur un mur, au milieu de mille autres choses qui n'étaient pas facilement interprétables, mon regard a été accroché par une feuille de papier blanc sur laquelle il était simplement écrit quelque chose comme « les grandes étapes de l'histoire de l'art ». Alors manifestement, d'après Augustin Rebetez, il n'y en a pas beaucoup de grandes étapes de l'histoire de l'art, 5 ou 6, mais plus surprenant encore, après l'invention de la perspective, on trouve l'invention de Photoshop. Alors sur le moment, ça m'a fait rire. Mettre au même niveau l'invention de la perspective, qui est non seulement une étape essentielle de l'histoire de l'art, mais sans doute une rupture du paradigme anthropologique, et puis l'invention de Photoshop, qui est quand même qu'un logiciel de retouche de photos, c'est assez drôle. J'ai souri, et puis j'ai oublié tout ça. Jusqu'à ce que, un peu plus tard dans l'été, je visite un château au fin fond de l'Écosse. Comme souvent, dans ces demeures hautement aristocratiques, les murs de l'escalier principal étaient tapissés de tableaux représentant les membres les plus éminents de la famille. À une place de choix, au milieu de comtesses un peu raides et de comtes un peu rougeaux, était représenté un homme de la Renaissance de très bonne allure, aux vêtements riches, au port digne, mais il louchait terriblement. Pas un strabisme gracieux qui confère au regard une charmante étrangeté, non, mais un bon vieux strabisme qui fait rigoler les enfants. Ce qui m'a empli d'empathie pour cet homme, sans doute très honorable, qu'un peintre donc très rigoureux avait figé ainsi pour les siècles. Comment a-t-il pu laisser faire ça, je me suis dit. Comment ses proches, ses descendants ont-ils fait pour accrocher ce tableau? Mais immédiatement, j'ai repensé à Photoshop. Parce que dans ma réaction, face à ce tableau, il y avait peut-être un effet direct de Photoshop. J'attendais la retouche. Bien sûr, Photoshop n'a pas inventé la retouche ni la rectification du réel, mais le logiciel a systématiquement ou a systématisé un soupçon qui donne lieu à des polémiques récurrentes touchant bien, aussi bien l'actualité d'ailleurs la plus grave que la cellulite de Beyoncé. Faut-il s'en affliger? C'est évidemment la question qui se pose. Eh bien, pas du tout, selon l'historien de la photo André Gunther, qui voit bien une rupture majeure dans Photoshop, mais surtout une rupture salutaire qui a permis de, je le cite, mettre fin à la dangereuse illusion de l'objectivité photographique. Alors le chercheur validait donc l'intuition de l'artiste. Ce qui est drôle, c'est que on est près de 26 ans après l'invention de Photoshop et nous autres spectateurs, on doute encore de ces effets que pourtant on ressent. C'est peut-être ça une grande étape de l'histoire de l'art.
L'improbité de Photoshop, merci beaucoup. Xavier, une réaction, Jean-Marc Manac?
Moi, je pense, ça me fait penser aux métadonnées. Je pense que la phase d'après, ce sera la découverte des métadonnées dans l'histoire de l'art. Moi, je sais qu'en tant que journaliste, j'utilise de plus en plus ces métadonnées, un peu comme les services de renseignement. Bah, le fait que, aujourd'hui, dans les photos, on a les coordonnées GPS de la photographie, on a éventuellement le nom du propriétaire du téléphone, on a plein d'éléments qui permettent de ça, la date, l'heure. Et moi, je sais que dans mon travail de journaliste d'investigation, je me sers de plus en plus des métadonnées. Et je pense que de plus en plus d'artistes vont s'en servir également.
Les artistes qui font ça, qui, par exemple, vont se chercher eux-mêmes, ils se mettent derrière des photos de touristes, et puis après, en repérant l'heure et le lieu, etc., et après, ils vont récolter ces photos qui ont été mises sur Flickr, etc., et donc on a des photos comme ça d'eux-mêmes dans des photos de touristes collectées.
C'est aussi cela, d'ailleurs, le problème du respect de la vie privée dans Internet, c'est qu'Internet véhicule infiniment plus de données qu'auparavant, Jean-Marc
Manac. C'est la vie publique. J'ai fait un bouquin il y a quelques années qui s'appelle « La vie privée, un problème de vieux con, point d'interrogation », où j'expliquais que la majeure partie du temps quand on parle de vie privée sur Internet, en fait, c'est pas de la vie privée, c'est de la vie sociale, et donc de la vie publique. Et ce qu'on fait en matière de vie privée, c'est effectivement quand on va chiffrer les communications, quand on ferme l'enveloppe du courrier qu'on envoie, mais à partir du moment où on ne ferme pas l'enveloppe du courrier qu'on envoie, à savoir à partir du moment où on ne chiffre pas ces communications, c'est comme une carte postale, l'information circule en clair, donc c'est plus de l'ordre de la vie privée.
C'est de la vie publique, mais parfois de la vie publique qu'on ne veut pas partager avec tout le monde.
C'est là où il faut apprendre à protéger ses communications. Quand on n'a pas envie de laisser de traces sur Internet, il faut savoir ouvrir l'onglet navigation privée ou passer par Tor pour arriver à faire des requêtes sécurisées sur Internet et ne pas laisser de traces.
Non, mais vous mettiez le doigt sur une question qui est essentielle, c'est qu'effectivement, on peut avoir publiquement des conversations qu'on estime être privées. Et ça, ça crée un espace qui est complètement nouveau, qui est très compliqué, mais ce qui est très étrange, c'est que ceux qui le font le plus, c'est-à-dire les jeunes, maîtrisent beaucoup mieux cette distinction que nous qui avons été habitués à une dichotomie beaucoup plus claire.